Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, le grand désintérêt. Deux tiers des électeurs se sont abstenus au régional hier. À peine plus d'un jeune sur 10 est allé aux urnes. Exemple ici à Metz.
Je suis vraiment pas du tout informée qu'il fallait aller voter. Je comprends rien, donc je vais avoir 21 ans, donc je m'en fiche. Hein.
Alors comment sortir de l'impasse? Reportage dans un instant, puis question à 13h30 au politologue Édouard Le Serre qui sera notre invité. L'abstention record relativise les résultats, les enseignements tout de même de ces régionales. Primo sortant de droite notamment, conforté Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse. Face à elle, en Ile-de-France, la gauche fusionne avant le second tour. RN moins fort qu'anticipé, en tête uniquement en PACA. Pression sur le candidat de gauche pour qu'il retire sa liste, ce qu'il refuse pour l'instant. La République En Marche reste un parti hors sol, sans ancrage électoral. Nous ferons le point des négociations avant le second tour. Question aussi sur les sondages. Ont-ils surestimé le Rassemblement National? Et sur l'organisation du scrutin, beaucoup d'électeurs n'ont pas reçu les listes et programmes chez eux. Toutes vos questions dès maintenant sur ces régionales. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Édouard Le Serre, directeur général adjoint de l'Institut BVA, est notre invité. À 13h30. Nous dresserons aussi le bilan des départementales. La carte devrait rester majoritairement à droite. Ces élections sont nettement moins médiatisées et pourtant les départements jouent un rôle clé dans le feuilleton du 13-14 jusqu'à vendredi. Une semaine dans la vie d'assistante sociale du département des Yvelines. Elles sont dans la ville de Trappes.
Vous aidez combien de familles sur Trappes? Alors on a reçu jusqu'à 5000 personnes sur ces 18 derniers mois pour une ville de 32-33 000 habitants. Donc ça représente un bon pourcentage.
5000 personnes aidées sur 32 000. Rendez-vous à 13h50 dans l'actualité encore. Début aujourd'hui du grand oral, la nouveauté du bac. Un peu de bazar dans l'organisation selon les enseignants. Les discothèques pourront rouvrir le 9 juillet avec passe sanitaire, masque recommandé, pas obligatoire. La vaccination, comment briser le plafond de verre. En foot, Ousmane Dembélé, forfait pour le reste de l'Euro. Et puis en ce jour de fête de la musique, le rappeur Black M avec Frédéric Pommier dans C'est une chanson. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Plus de 32 millions de personnes ne sont pas allées voter hier au régional. Taux d'abstention supérieur aux deux tiers à 66%, du jamais vu pour des élections en France. D'autres chiffres disent le repli démocratique des jeunes électeurs en particulier. 87% des 18-24 ans ne sont pas allés aux urnes hier, 83% des 25-34 ans. Quand la jeunesse boude les urnes, témoignage, élément d'explication, reportage de Delphine Evenou dans le quartier Jussieu à Paris.
Devant la faculté de Jussieu, sur les panneaux électoraux, les candidats sourient en vain en direction des jeunes électeurs.
Je me suis renseignée un petit peu comme tout le monde, mais je suis pas allée dans le détail et puis ça me disait pas grand-chose.
Pas le temps, des partiels, procuration trop tard.
Bon, on se trouve des excuses, je pense, mais c'est un truc plus pour les adultes qui savent pour qui ils vont devoir voter parce qu'ils se sont quand même bien renseignés, alors que je sais pas, quand on a 18 ans, on a peut-être d'autres préoccupations.
Confirmé par Nelson, 21 ans, vendeur.
Les jeunes se désintéressent de la politique de plus en plus, pas parce qu'ils pensent plus à eux qu'autre chose, quoi. Comme moi j'ai fait, hein. C'est un avis égoïste, je l'assume.
Donc c'est pas la faute des politiques?
Non. Quoi, après je dis ça, mais moi je vais vous dire la vérité, il n'y a pas beaucoup de politiciens qui m'intéressent beaucoup, soit leur parcours ou leur histoire ou je sais pas quoi, c'est vraiment pas mon délire.
Cassandra, 19 ans, fiche de révision en main, n'a même pas pensé à aller voter.
Dans ce qu'on a vu jusqu'à présent, il y a souvent des trucs qui à la fin ne sont pas faits, et donc au bout d'un moment on se dit qu'on a d'autres préoccupations et que c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus, si au final c'est pour servir à rien, c'est un peu la crainte qu'on a.
Une lassitude qui a fait louper l'inscription sur les listes électorales à Baptiste en service civique.
Moi, le paysage politique en ce moment me fait pas vraiment envie du tout. Il y a très peu d'alternatives et même quand ces alternatives existent, tout le monde dit oui, non mais il faut voter utile, il faut voter ceci, c'est un peu n'importe quoi pour moi.
Et pourtant, comme beaucoup d'autres, pour le scrutin présidentiel, il assure qu'il se déplacera dans l'isoloir.
L'abstention selon les générations et selon l'appartenance politique également. Ceux qui ont voté Marine Le Pen en 2017 se sont plus massivement abstenus hier à 73%. Sur France Inter, le délégué général de la République En Marche, Stanislas Guérini, plaide pour que le vote par Internet soit mis en place lors du prochain quinquennat. La France Insoumise veut déposer une proposition de loi qui fixerait un seuil minimum pour qu'une élection soit validée et acterait la reconnaissance du vote blanc. Jean-Luc Mélenchon demande aussi une commission d'enquête sur l'organisation du scrutin d'hier, marquée par une série de ratés. Des bureaux de vote fermés le matin à Marseille, manque d'assesseurs, manque de bulletins ici ou là. Et puis de nombreux électeurs disent ne pas avoir reçu la propagande électorale, les listes et le programme des différents candidats près de chez vous, qui arrivent en principe dans la boîte aux lettres. Catherine est électrice dans le Puy-de-Dôme, elle n'était déjà que moyennement motivée pour les régionales. Ce raté n'a pas aidé.
J'ai reçu l'enveloppe pour les élections départementales et pour les régionales, j'ai rien reçu. On manque d'informations. Je trouve ça lamentable, enfin c'est pas normal. Ça démotive, surtout pour les régionales. Déjà, on connaît pas forcément les candidats parce que maintenant les régions sont très grandes. En plus, il y a, je sais pas, 6 ou 7 listes. Ça favorise, je pense, ceux qui sont en place.
Alors combien de documents manquants ? 21 000 électeurs n'ont pas reçu la propagande électorale, disait hier soir la ministre déléguée à l'Intérieur, Marlène Schiappa. Y en a-t-il davantage ? Bonjour Yann Gallic.
Bonjour.
Alors que La Poste est le prestataire privé chargé de cette distribution, Adrexo était convoqué ce matin au ministère de l'Intérieur. On cherche encore à mesurer l'ampleur du phénomène.
En effet, difficile de savoir précisément combien de professions de foi et de bulletins de vote ne sont pas arrivés dans les boîtes aux lettres. Certains élus parlent de dizaines de milliers d'électeurs qui auraient été victimes de ces dysfonctionnements. La propagande électorale a été mal distribuée dans plusieurs communes, de droite comme de gauche. Dans l'Orne, en Loire-Atlantique, en Mayenne, dans le Nord, en Haute-Loire ou encore dans la Marne. Certains électeurs, vous l'avez entendu, n'ont rien reçu à leur domicile. Des tas d'enveloppes contenant les professions de foi des candidats ont été retrouvées dans des poubelles ou entassées à côté des boîtes aux lettres. Et selon nos confrères de France Bleu Orléans, des promeneurs ont même découvert près de 200 enveloppes dans une forêt du Loiret. Alors dans ces départements, c'est la société Adrexo qui était en charge de la distribution. En février, cet opérateur privé avait remporté avec La Poste l'appel d'offres lancé par le ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin, vous l'avez dit, a convoqué ce matin les dirigeants des deux entreprises. Le ministre de l'Intérieur leur a demandé d'apporter des garanties express pour que de tels dysfonctionnements ne se reproduisent pas au second tour. Nous avons contacté le directeur général adjoint de La Poste. Il estime que son entreprise a fait son travail. Nous avons distribué, dit-il, tous les plis électoraux dans les 7 régions qui nous étaient attribuées. Quant à la société Adrexo, elle n'a pas encore donné suite à notre demande d'interview.
Venons-en aux résultats de ces élections. Partout, l'abstention amène à les relativiser, même les plus nettes. Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, Laurent Wauquiez, meilleur score du premier tour en métropole, près de 44% des suffrages exprimés. Ses adversaires sont à 30 points, mais en pourcentage des inscrits, il n'obtient que 14% des voix. Il perd 50 000 voix par rapport à il y a 5 ans. Abstention stratosphérique, c'est donc le premier enseignement de ces élections. Et le RN, plus bas qu'anticipé dans les intentions de vote. La seule région où il sort en tête, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur, avantage Thierry Mariani, 36% des suffrages exprimés, 32% à Renaud Muselier, la droite avec des marcheurs sur sa liste. Jean-Laurent Félizia pour l'Union de la gauche est à 17%. Il veut se maintenir, pas de front républicain, mais la pression est très forte pour qu'il se retire et fasse barrage à l'extrême droite. Il sera exclu d'Europe Écologie Les Verts s'il se maintient, fait savoir le mouvement. Les partis socialistes et communistes l'appellent également à retirer sa liste. Et la pression, Olivier Martoc, vient aussi de ses colistiers.
Jean-Laurent Félizia n'est pas un poids lourd de la politique ici. Jusqu'à sa désignation surprise par EELV pour torpiller la candidature d'Olivia Fortin, à l'origine du printemps marseillais, personne ne le connaissait. C'est ce qui explique le peu de prise des états-majors sur lui. Depuis hier soir, ses colistiers les plus proches, élus comme lui dans le Var, font pression sur lui et lui demandent, eux aussi, de jeter l'éponge. Anthony Gonzalves, chef de file des communistes, était sur France Bleu Provence ce matin.
C'est une décision que nous désapprouvons. Nous ne soutiendrons pas une campagne qui pourrait conduire à l'élection du Rassemblement National à la tête du Conseil Régional.
Alexandre Latz, cinquième sur la liste et représentant de Place Publique, va plus loin et lui demande de retirer son nom pour le second tour.
Je demande qu'on ne dépose pas cette liste. Je n'ai pas été consulté de l'avis pris par la tête de liste, comme beaucoup de colistiers. Il peut imposer la même liste au deuxième tour. En tout cas, moi, je ne veux pas y figurer.
Seulement, voilà, selon le code électoral, le seul maître du jeu, c'est Jean-Laurent Félizia. C'est lui qui déposera ou pas une liste en préfecture. Et même sans leur consentement, il peut afficher les mêmes noms qu'au premier tour. Son seul risque, en fait, est financier. Si la liste ne dépasse pas les 5%, il devra assumer les frais de campagne de l'ordre de 800 000 euros. Marseille. Olivier Martoc, France Inter.
Et dans cette région PACA, après une campagne très agitée, tiraillée entre rapprochement avec la majorité En Marche et recadrage des LR qui menaçaient un temps de lui retirer l'investiture, Renaud Muselier est donc en deuxième position, beaucoup moins loin du candidat d'extrême droite qu'annoncé, à 4 points précisément. Le président sortant de cette région est déjà reparti en campagne à Marignane ce matin. Renaud Muselier au micro d'Élodie Forêt.
Moi, ce qui compte, c'est de faire en sorte qu'on se retrouve dans une situation où la région ne tombe pas dans l'extrême droite. J'ai entendu tous nos adversaires ou concurrents qui expliquaient qu'au soir du premier tour, ils prendraient leur responsabilité en âme et conscience par rapport au Front National. Et donc, je constate aujourd'hui que M. Felizia, qui était le candidat de la gauche unie, avec l'étiquette écologie Les Verts, se retrouve avec le PS local et national qui est contre lui, le PC local et national qui est contre lui, et même les patrons des Verts qui lui retirent l'investiture. Ils ont quand même fait l'union de la gauche derrière un candidat qui maintenant refuse l'union de la gauche pour son aventure personnelle. C'est quand même assez sidérant, surtout pour moi qui ai toujours combattu le Rassemblement National sans jamais aucune faille, et lui qui est porteur de ce même message, de ce même discours. C'est quand même surprenant.
Autre région clé, les Hauts-de-France, abstention 67%. Xavier Bertrand sort nettement en tête de ce premier tour, 41% des suffrages exprimés, 24 pour Sébastien Chenu à l'extrême droite. Il a 17 points de moins que Marine Le Pen en 2015. Dans cette région où 5 ministres avaient été dépêchés, le candidat En Marche, Laurent Pietraszewski, n'est même pas qualifié pour le second tour. Xavier Bertrand avait dit qu'il ne serait pas candidat à la présidentielle l'année prochaine s'il n'emportait pas les Hauts-de-France. Eh bien, Maxence Lambrecq, il est bien parti pour gagner son pari. Il tient en ce moment même, Xavier Bertrand, une réunion publique à Primesque dans le Nord.
Oui, tout à fait galvanisé par son score, il a déjà repris les meetings.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Xavier Bertrand.
70 élus et militants dans une petite salle des fêtes en périphérie de Lille, une campagne de réseau, et ce qui explique une partie de son succès, des milliers de kilomètres au compteur.
À 8h, j'étais déjà en train de visiter l'entreprise de l'économie circulaire. Ça va être une semaine tambour battant. Et si les hommes et les femmes des Hauts-de-France nous font confiance dimanche soir, la semaine d'après, elle sera aussi tambour battant. Et ceux qui pensaient qu'on allait penser à autre chose, à une autre élection ou aux vacances, ceux-là ne me connaissent pas et ne connaissent pas mes colissiers.
Quoi qu'il en dise, il a toujours en tête la présidentielle et ses enjeux.
Il faut qu'on comprenne au sommet de l'État que rétablir l'autorité, garantir la sécurité, c'est pas une option, c'est une obligation. Partout sur le territoire, partout. Et que le premier sujet, c'est la réponse pénale.
Cette double casquette ne l'a pas desservie et c'est cocasse. Au Touquet, dimanche, Emmanuel Macron n'aura pas d'autre choix que de voter pour lui.
Tous ceux qui veulent m'aider à faire reculer le Front National sont tous les bienvenus.
Les sondages se sont tous trompés, c'est pas forcément une bonne méthode pour départager les candidats.
Il sourit.
Vous voulez dire que les résultats, c'est mieux ? Vous avez plutôt raison.
Les résultats, c'est mieux. Cela va décrédibiliser la méthode envisagée à droite pour désigner son champion en 2022. Et ça l'arrange, bien sûr.
Maxence Lambrecq en direct pour France Inter avec les moyens techniques de Geoffrey Marianne à propos du score du Rassemblement National moins élevé qu'anticipé dans les Hauts-de-France et ailleurs. On a entendu hier soir l'appel vibrant de Marine Le Pen à ses électeurs. Allez voter dimanche prochain. Pour le maire de Béziers, Robert Ménard, si Marine Le Pen veut gagner dans un an, elle doit tirer les leçons de ses régionales. La normalisation du RN n'est pas suffisante, selon Robert Ménard. Le discours pas assez constructif et le parti manque de figures crédibles. Alors Xavier Bertrand fait partie des personnalités de droite confortées après ce premier tour, comme Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes et, dans une moindre mesure, Hervé Morin en Normandie, Jean Rottner dans le Grand Est et Valérie Pécresse en Île-de-France. 36% des suffrages exprimés pour la présidente sortante, 13 pour le RN Jordan Bardella, 12 pour les marcheurs. Les trois listes de gauche, Bayou, Pulvar, Autain, sont entre 13 et 10, 13 pour l'écologiste. Et les trois fusionnent, Julien Bayou en tête de liste, dès ce matin, fusion actée donc, et premier déplacement commun dès cet après-midi en Seine-Saint-Denis, Laurence Perron.
Oui, alors les négociations ont duré une bonne partie de la nuit. Elles ne sont en réalité pas encore terminées. On attend d'ailleurs toujours de savoir l'heure et le détail du déplacement prévu, vous le disiez, cet après-midi, pour la belle image de la gauche unie en Seine-Saint-Denis. Le patron des Verts, Julien Bayou, arrivé en tête, vous le disiez, en Ile-de-France, prend le leadership de la liste d'union. Mais maintenant, il faut panacher les listes avec les noms en respectant les équilibres. On sait que les écologistes sont très durs en affaires, d'autant qu'à Paris, ils sont très au-dessus des scores de la candidate socialiste Audrey Pulvar, candidate imposée par la maire de Paris, un camouflet pour Anne Hidalgo, candidate putative présidentielle, un camouflet, se réjouissent les insoumis qui devancent aussi les socialistes, notamment en Seine-Saint-Denis. La Clémentine Autain y a fait une campagne de terrain très efficace et donc la France insoumise veut aussi avoir voix au chapitre. L'Union peut-elle faire gagner la gauche en Ile-de-France ? Eh bien, si on additionne les voix d'hier, c'est possible, mais à condition que les électeurs de La République En Marche se reportent un peu à gauche et que le maintien du RN affaiblisse Valérie Pécresse. Bref, c'est pas gagné. Toutefois, ce qui est à l'œuvre avec ce travail d'alliance, c'est clairement le test de l'union de la gauche pour 2022 et là encore, ça n'est pas gagné.
Merci Laurent. France, Perron. Alors, on a mis le zoom sur trois régions, mais il y en a 13 en métropole. Les enseignements globaux, échec de la République en marche, et Rennes moins fort qu'attendu, on l'a dit. Nous ne sommes pas condamnés à vivre un duel Macron-Le Pen dans un an, estime le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Primo sortant, qu'il soit de droite ou de gauche. Bonjour, Simon Le Baron.
Bonjour.
On va parler des autres régions, désormais, pas seulement ces trois-là. Les candidats ont jusqu'à demain 18h pour s'accorder sur les fusions et les alliances, négociations en cours. On a, cela dit, une bonne idée des rapports de force. Alors, un tour d'horizon avec vous. D'abord, les régions où il y aura des quadrangulaires. Quatre candidats.
Voilà. Alors, l'Île-de-France, on vient d'en parler. Les trois listes de gauche devraient s'allier pour tenter de battre Valérie Pécresse, alors que la liste macroniste se maintient puisque le RN n'a aucune chance de victoire. Dans les Pays de la Loire, là aussi, une union de la gauche, gauche-vert, va partir avec l'espoir de prendre la région à la droite, et La République En Marche se maintient malgré sa quatrième place derrière le Rassemblement National. Dans le Grand Est, vous avez dans l'ordre d'arrivée la droite, le RN, la gauche et la majorité présidentielle. En Bourgogne-Franche-Comté, la majorité socialiste sortante va s'entendre avec les écologistes. Elle aura en face le RN, la droite et La République En Marche, encore quatrième. Quatrième aussi, la Macronie en Normandie, qui se maintient pour l'honneur face au centriste Hervé Morin, au Rassemblement National aussi, et à la liste PS Vert. Les Verts qui vont fusionner en Nouvelle-Aquitaine avec les socialistes, le RN est deuxième, et la majorité présidentielle et les Républicains partiront chacun de leur côté.
Jusque-là, je vous suis, les quadrangulaires c'était simple, il y a des régions avec des incertitudes.
Et oui, d'abord en PACA, où la gauche unie veut se maintenir au second tour, ouais, malgré le risque de victoire du Rassemblement National. Alors la pression des états-majors parisiens va-t-elle faire céder Jean-Laurent Felizia? Si c'est le cas, ce sera un duel Muselier-Mariani. C'est flou aussi en Bretagne, ouais. Bruno, le sortant socialiste ne partira pas avec les écologistes. Va-t-il pouvoir se réconcilier avec son frère ennemi macroniste? Cela pourrait donner une quadrangulaire ou une quinquangulaire. Cinq candidats avec LR, les Verts donc, et le parti de Marine Le Pen. Et puis en Centre-Val de Loire, le ministre Marc Fesneau discute avec la droite, tandis que le sortant PS s'allie avec les Verts. Cela devrait donc donner une triangulaire avec le RN toujours bien présent.
Ah bah tiens, parlez-moi des autres triangulaires.
Alors les Hauts-de-France, où l'Union de la gauche ne se retire pas face à Xavier Bertrand et au RN de Sébastien Chenu. En Auvergne-Rhône-Alpes, où la socialiste Najat Vallaud-Belkacem va s'entendre avec les Verts face à la droite de Laurent Wauquiez et face, encore une fois, au RN. Et enfin, en Occitanie, triangulaire avec le PS qui devrait conserver sa région dans un fauteuil face au RN et aux Républicains.
Merci Simon Le Baron. Un homme était triplement intéressé par les élections d'hier, c'est le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il en est l'organisateur, avec les bugs que l'on a évoqués tout à l'heure. Il était candidat au départemental, un second tour facile l'attend à Tourcoing. Et puis c'est une figure de la majorité pour qui ces élections sont un loupé. 11,5% des suffrages exprimés seulement pour La République En Marche au plan national. Et Gérald Darmanin ne se voile pas la face.
C'est pas grave, mais la démocratie, c'est parfois perdre des élections. Et c'est pas très grave. Mais cependant, il est vrai que Xavier Bertrand a gagné ce premier tour des élections. C'est une évidence. Moi, je considère personnellement que les Français répondent à la question qu'on leur pose. Qui voulez-vous comme président de région? Ils ont répondu. Ne tirons pas de conclusions hâtives sur l'élection présidentielle. Les Français sont un peuple politique qui n'est pas idiot. Quand il s'abstient, c'est qu'il a envie de s'abstenir. Quand il vote pour les régionales, c'est qu'il vote pour le président de région. Là où il y a des sortants, ils ont été réélus, à gauche comme à droite. Là où il y a des gens qui ont voulu conquérir, ils ont été balayés. Voilà. Et la majorité présidentielle, comme elle était sortante nulle part et que voulait entrer partout, a connu aujourd'hui, en effet, une difficulté importante.
Gérald Darmanin sur France 2, un mot de la Corse, avantage aux autonomistes après les élections d'hier, mais le maire d'Ajaccio, proche d'Édouard Philippe, Laurent Marcangeli, est en embuscade. Et puis, il faut s'arrêter sur les résultats des départementales également. Bonjour Yael Goz.
Bonjour Bruno.
Les départements, très importants, ils gèrent l'action sociale, les collèges, une partie des routes. Leurs budgets sont parfois supérieurs à ceux des régions, exemple les Bouches-du-Rhône comparées à PACA. Les départementales, eh bien, elles ne réservent pas beaucoup de surprises, hein, Yael Goz.
Mais non, on avait laissé la carte de France aux deux tiers bleus, 66 départements pour la droite, dont 25 conquis sur la gauche, et bien dimanche prochain, le statu quo est très probable, avec un peu plus de bleu quand même. Les LR peuvent reprendre aux socialistes les Alpes de Haute-Provence. Avantage aussi dans l'un des derniers bastions communistes, le Val-de-Marne. Le printemps marseillais ne fait pas de miracle face à la droite dans les Bouches-du-Rhône. Avantage LR dans le Nord, et situation indécise en Loire-Atlantique, où la gauche est en petite forme. A contrario, dans les Côtes-d'Armor, département qu'ils ont perdu il y a 6 ans, là ce sont les binômes de la gauche unie qui sont en tête dans 19 cantons sur 27. Et la majorité dans tout ça, me direz-vous? Par définition, elle n'avait pas de sortant, la REM est récente. Les Pyrénées-Atlantiques devraient rester dans le giron du Modem. Le Puy-de-Dôme, là c'est la gauche qui est en tête. Et en Seine-Maritime, autre département apparenté macroniste, ça se jouera à deux ou trois cantons près. Enfin, primo sortant toujours, 17 présidents de département réélus dès le premier tour, en majorité LR. On notera le bon score de Marine Le Pen, plus de 60% à Anna Beaumont, des ministres Gérald Darmanin, vous en avez dit, et de Sébastien Lecornu à Vernon, maigre consolation après ce dimanche noir pour l'exécutif.
Et puis en Corrèze, Claude Chirac est bien parti pour être élu, 58% des voix, mais elle n'a pas assez de participants pour qu'elle passe dès le premier tour, elle échoue de peu, mais le second tour devrait être facile. Les détails de ces élections, vous les retrouvez sur franceinter.fr.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvy.
Comment mieux intégrer tous les citoyens, les jeunes en particulier, dans les institutions de la 5e République? Bah tiens, voilà un beau sujet pour le grand oral du bac. C'est la nouveauté de l'année. 20 minutes d'échange avec un jury composé de deux enseignants. Une question préparée par l'élève qui porte sur l'un de ses enseignements de spécialité. Puis un échange sur son parcours personnel et d'études, d'orientation. Notre lycée test pour cette nouveauté, c'est le lycée Voltaire à Paris. C'est là que vous êtes, Sonia Princé. Un peu de désordre dans l'organisation depuis hier soir et ce matin encore. Vous avez croisé des enseignants énervés et des élèves contents.
Oui, c'était un peu la pagaille ce matin pour la composition des jurys.
Bah non, apparemment,
Il manquait un professeur de spécialité en anglais, remplacé par un enseignant de collège. D'autres ont été convoqués à la dernière minute, hier soir, comme cette professeure de PS.
Moi, je l'ai appris vers 20h. Tout est fait dans l'urgence et l'organisation n'est pas au rendez-vous. J'ai pas suivi la formation, je ne sais pas ce que je dois faire et j'ai pas de convocation officielle. On est là uniquement pour la forme, c'est-à-dire regarder comment l'élève, j'imagine, bouge, s'exprime. On n'est pas là pour le fond, on est juste là pour la forme.
Mais les professeurs très en colère se sont radoucis devant les élèves et se sont montrés très sympathiques d'après les candidats. Shaima et John sont ressortis de leur grand oral, souriants et soulagés.
Les jurés étaient très gentils et à l'écoute, ça avait des regards rassurants. Ça s'est très bien passé. Surtout, ils n'arrêtaient pas d'acquiescer. Donc ça me rassurait et ça me donnait la force de ne pas paniquer.
C'était long, un peu long quand même au début, beaucoup d'attentes. Et finalement, quand on arrive devant les jurés, c'est très 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 sympathique. Je pense qu'ils ont compris que c'était une année compliquée avec la crise du Covid et que je pense qu'il fallait être indulgent.
Effectivement, la proviseure adjointe a bien rappelé les consignes de bienveillance et les jurys vont en tenir compte.
Merci Sonia Princé, en direct du lycée Voltaire. Ce grand oral se déroule jusqu'au 2 juillet. Au tribunal correctionnel de Paris, le procès des 13 harceleurs présumés de Mila a repris ce matin. Cyberharcèlement. La jeune fille, auteure de vidéos où elle critique violemment l'islam, a reçu plus de 100 000 messages haineux et menaces de mort, selon son avocat Richard Malka. Et ce matin, l'Aurélie Carive, le tribunal a commencé à entendre les prévenus.
L'audience a commencé à se plonger dans le monde très codifié des réseaux sociaux. Pour ce comprendre, on va essayer de se mettre d'accord sur les mots, lance le président qui interrompt le premier prévenu pour se faire définir ce qu'est un TT, réponse un top tweet ou encore un hashtag. À la barre, il y a donc Enzo, 22 ans, chemise blanche, sous son costume sombre. Tu mérites de te faire égorger, sale grosse pute, écrivait-il sur Twitter en novembre dernier. J'ai réagi à chaud, c'est inexcusable, explique le jeune homme. Il dit se définir comme chrétien. Mais je connais beaucoup de musulmans, les propos de Mila m'ont touché, jamais je lui aurais fait de mal. Réaction à chaud, les mêmes mots reviennent dans la bouche d'Axel, 19 ans. À l'époque, j'étais sans emploi, sans permis, renfermé sur moi-même. La solitude a beaucoup joué, souligne celui qui travaille aujourd'hui en intérim dans la préparation de commandes. Lui succède enfin Lorraine, étudiante en anglais. Que quelqu'un lui broie le crâne par pitié, avait-elle publié sur Twitter. J'ai pas réfléchi, j'en avais ras-le-bol de voir son prénom dans mon fil d'actualité, invoque la prévenue. Vous auriez pu écrire à la place « Faites la terre », remarque un avocat. J'aurais dû, mais je l'ai pas fait. Au premier rang, bras croisés, Mila les fixe un à un de ses grands yeux bleus. L'audience reprendra dans l'après-midi.
Des évacuations dans le quartier de la rue de la Roussel à Bordeaux après l'effondrement de deux immeubles hier soir au 19 et 21. Trois personnes sont blessées. L'une d'entre elles est très grièvement touchée. Pas de détails sur les causes de ce drame pour l'instant. Nous sommes le 21 juin et le gouvernement donne une date claire et nette pour la réouverture des discothèques. Ce sera le 9 juillet. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Avec quelles règles?
Pour les adeptes du dancefloor dont vous êtes, Bruno, je le sais, ce sera passe sanitaire obligatoire, a fait savoir Alain Griset ce matin en charge du dossier au sein du gouvernement. Mais dans les faits, un test antigénique suffira, tempère l'Elysée. Pour ça, et parce qu'aller en discothèque se décide parfois sur un coup de tête, des barnums pour des tests en quelques minutes seront installés devant les établissements, à charge des professionnels ou non. La question sera discutée d'ici le 9 juillet, date à laquelle les discothèques seront donc autorisées à rouvrir avec, c'est important là aussi, une jauge à 75% en intérieur. Le port du masque ne sera pas obligatoire mais recommandé, sachant que les professionnels qu'ils souhaiteront pourront décider de rester quartiers fermés, si les contraintes leur paraissent trop fortes, qu'ils craignent de ne pas rentrer dans leurs frais. L'État continuera à les accompagner si nécessaire cet été. L'Élysée y met d'ailleurs une clause de revoyure. Un point sera fait avec les professionnels de la nuit en septembre pour savoir s'il y a lieu d'ici là de desserrer ou de resserrer les mesures.
Quant aux concerts debout, ils reprendront le 30 juin, jauge de 75% en intérieur, 100% en extérieur, passe sanitaire au-delà de 1000 personnes. Les progrès de la campagne de vaccination permettent de rouvrir même ces lieux où le risque de transmission du virus est élevé. Près de 32 millions de premières doses injectées, près de 18 millions de personnes complètement vaccinées. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour Bruno.
Évidemment, au fil des semaines, il sera de plus en plus difficile de convaincre de nouvelles personnes pas passées à la piqûre de se faire vacciner. Le plafond de verre se rapproche. Comment va se poursuivre la vaccination cet été? C'est un peu la grande interrogation.
Oui, alors concernant les centres de vaccination, vont-ils maintenir leur rythme actuel au moins en juillet? Vont-ils réduire les disponibilités, ce que certains anticipent déjà? Et puis les candidats au vaccin seront-ils aussi nombreux? Car il y a encore un pourcentage non négligeable d'hésitants. On aborde l'été avec un certain nombre d'incertitudes. Alors raison de plus pour délivrer une information claire et validée. Une initiative vient d'être prise par un collectif de soignants, d'associations aussi, la création d'une plateforme numérique dont le but est de réconcilier population et vaccination. Ça s'appelle Vaccination et Lien Social. Parmi ses créateurs, le docteur Anne Monnier, elle est épidémiologiste et médecin généraliste.
Moi, je travaille aussi en centre de vaccination et on voit bien qu'il y a une partie de la population qui a encore ses inquiétudes. On a pas mal de temps à argumenter, à répondre à certaines questions. On parle de ce fameux plafond de verre avec la vaccination Covid. On se rend bien compte qu'avec nos patients, on est parfois en difficulté et on manque d'arguments et on ne sait pas vers quoi les orienter qui leur parlerait plus qu'un texte officiel. Et c'est un peu différent peut-être pour le Covid que pour d'autres vaccins parce que là, on est dans une situation où les gens maintenant, ils ont aussi envie de se vacciner pour pouvoir revivre normalement. Ils réfléchissent plus tellement forcément à leurs bénéfices individuels. Mais ces personnes-là, elles sont simplement hésitantes. Ce qu'il faut, c'est trouver les mots, le document, la façon de leur parler qui va leur convenir. Et c'est pas la même pour tout le monde.
Vaccination et lien social, c'est donc une plateforme d'interface. Les données scientifiques sont mises à disposition pour alimenter un flux dans lequel la société civile est invitée à s'insérer. Car si on veut que la stratégie vaccinale porte ses fruits et tordre le cou aux fake news, il faut ouvrir au maximum les accès à l'information. Car depuis le début de la vaccination en général, c'est ainsi, expliqué encore. D'ailleurs, Bruno, le saviez-vous, cela fait 100 ans tout juste que le premier enfant a été vacciné par le BCG contre la tuberculose.
100 ans. Au Japon, un peu plus d'un mois avant les Jeux Olympiques de Tokyo, les organisateurs précisent la jauge retenue, 50% sur les sites de compétition, dans une limite de 10 000 personnes. Pour l'instant, dans la série Grande Compétition Sportive, c'est l'Euro de football. Et à deux jours du match face au Portugal, une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France, le forfait pour toute la compétition d'Ousmane Dembélé, Alexandre Vaux.
Le forfait d'Ousmane Dembélé a été officialisé à 11h18 par la Fédération Française de Foot. Sorti en fin de match samedi, après avoir joué une trentaine de minutes, l'attaquant du FC Barcelone a passé des examens radiologiques hier soir à l'hôpital de Budapest qui confirment qu'il souffre bien d'un coup sur le tendon d'un genou. Mais la blessure est plus grave qu'espérée. La Fédération Française de Foot précise que les délais de rétablissement du joueur sont incompatibles avec son maintien dans le groupe, ce qui signifie donc son forfait pour la suite de la compétition. Ousmane Dembélé pourrait être indisponible au moins 3 semaines. L'équipe de France précise que des échanges ont eu lieu dès hier soir avec le staff de son club de Barcelone. L'attaquant va donc quitter le rassemblement dans les prochaines heures et laisser les Bleus à 25 joueurs. Seul un gardien peut être remplacé à ce stade de la compétition. C'est aussi une option de moins pour le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. Ousmane Dembélé était un des premiers remplaçants à entrer en jeu pour amener sa vitesse et son dribble comme samedi contre la Hongrie. Budapest, Alexandre Vaux, France Inter.
À l'affiche de l'Euro aujourd'hui, Macédoine du Nord, Pays-Bas, Ukraine-Autriche, Russie-Danemark, et Finlande-Belgique. Et puis quand une grande radio vit des heures difficiles, c'est Europe 1, chute d'audience depuis de longs mois, climat social particulièrement dégradé en cette fin de saison, alors que la prochaine grille de programme, la première avec Vincent Bolloré comme actionnaire principal, se prépare. Europe 1 est en grève depuis ce week-end, grève reconduite jusqu'à demain.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Encore un temps orageux, Élodie.
Oui, sur la plupart des régions, en effet, c'est instable, souvent nuageux, avec des averses, des orages possibles. Alors, le risque est isolé pour le moment du bassin parisien au Grand Est. On a de belles éclaircies, mais il va se renforcer pour ce soir. C'est des Pyrénées vers le Massif central et vers le Nord-Est qu'on attend les orages les plus forts, avec des pluies marquées, de la grêle, de fortes rafales de vent. Sur le Nord-Pas-de-Calais, vous avez des averses. Et puis, vous êtes plus gâtés autour de la Méditerranée avec du soleil. Les températures, elles sont orientées à la baisse. 15 à 19 degrés près de la Manche, 20 à 25 degrés sur une grande partie ouest, Île-de-France comprise, 26 à 30 en allant vers l'est et jusqu'à 32 autour de la Méditerranée. Demain, on aura encore quelques degrés de moins sous un ciel souvent bien nuageux avec quelques averses et de l'orage à nouveau l'après-midi.
Élodie Calac, Météo France. Dans un instant, toutes vos questions sur les régionales avec le politologue Édouard Le Serre.
Philippe Poupon, vous savez, c'est un grand navigateur. Et dans la vie, il a besoin d'aide auditive. Jusqu'à présent, il n'en avait qu'une seule paire, ce qui n'est pas très prudent en cas de problème. Alors pour lui, comme pour tout le monde, j'offre une deuxième paire d'aide auditive pour 1 euro de plus. Et ça, c'est quelle que soit la première paire.
Chin Chin Audio, pour l'achat d'une paire d'appareils auditifs, bénéficiez d'une deuxième paire pour 1 euro de plus. Rendez-vous sur alainflelou-acousticien.fr. Valable jusqu'au 31 août 2021, voire condition en magasin dispositif médical LCE. Lire attentivement la notice, demandez conseil à votre audioprothésiste.
France Inter aime...
L'exposition Simone Veil, « Nous vous aimons, madame ». La ville de Paris rend hommage à une femme exceptionnelle qui a occupé une place à part dans la vie politique française. Retrouvez son parcours, son engagement pour les droits des femmes, pour l'Europe et pour la mémoire de la Shoah.
« Nous vous aimons, madame ».
Simone Veil, 1927-2017, une exposition gratuite sur inscription jusqu'au 21 août à l'Hôtel de Ville de Paris. Un événement France Inter.
Il est 13h31.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Jusqu'à 13h45, nous tirons le bilan des élections d'hier avec Édouard Le Serre. Bonjour.
Bonjour.
Directeur général adjoint de l'Institut BVA. Et tout de suite, le témoignage de Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors, je pense que les nouvelles grandes régions sont beaucoup trop grandes. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voté au régional. Étant en Poitou-Charentes, à mi-chemin entre Poitiers et Angoulême, je ne me sens concernée ni par Bordeaux, ni par les Pyrénées.
Merci Marie-Christine. Voilà le témoignage de Marie-Christine Édouard Le Serre pour parler de l'abstention. Est-ce que cette carte avec d'immenses régions, Occitanie, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, a pu jouer un rôle?
Oui, sûrement ça a joué un rôle parmi beaucoup d'autres. Oui. Et c'est d'ailleurs un élément presque paradoxal, parce que vous vous souvenez, on a lu, on a beaucoup dit, on a beaucoup écrit, on a beaucoup entendu que la période du Covid avait rapproché les Français de leur territoire, de la proximité, de leur maire, des élus locaux, qui étaient là, qui étaient présents, qui donnaient la preuve qu'ils pouvaient faire quelque chose. Et là, on a des élections locales, alors oui, avec un local qui peut être un peu biaisé, et la participation est tellement faible. Donc il y a une forme d'incompréhension, comme s'il manquait un engrenage entre cette volonté de pouvoir s'ancrer et les structures administrativo-politiques qui sont offertes, et ce moment-là. En tout cas, il n'y a absolument pas eu rencontre, et je comprends ce que dit votre auditrice, ne pas se retrouver dans quelque chose, eh bien c'est créer une distance, et la distance avec la politique n'a pas besoin d'être nourrie par cela, là elle a été largement nourrie. Oui.
Vous disiez une des raisons, lesquelles avez-vous repérées pour expliquer l'abstention record d'hier, les deux tiers des électeurs?
Il y a énormément de raisons, il y a eu un cumul, bien sûr, on va parler de ce moment particulier de déconfinement, c'est-à-dire que pour certains, il pouvait encore y avoir un peu de crainte à pouvoir se rendre dans un bureau de vote, mais je ne pense pas que ça ait été l'élément principal. Pour d'autres, il y avait le sentiment que, finalement, on était en train de se libérer, c'est peut-être pas le moment. Mais de manière plus générale, ça veut dire que simplement, si ça n'est pas le moment, c'est qu'on fait un choix. Ça veut dire que le vote, aller voter, c'est devenu un choix, ça n'est plus vraiment un devoir. On se sent beaucoup moins engagé sur le fait de pouvoir se rendre, passer les 10 minutes, le quart d'heure, la demi-heure parfois, si c'est un peu loin, pour aller faire ce geste démocratique. Ça, c'est évident que ça a largement joué. En gros, aujourd'hui, les Français se disent « je vote ou je ne vote pas, je choisis ». Et le fait de le poids que représente institutionnellement, démocratiquement, et pour les individus, pour les citoyens, le fait d'aller voter est devenu une option.
Est-ce qu'on franchit un cran à chaque fois? C'est-à-dire, je dis pas que la prochaine élection, le chiffre sera encore plus élevé, mais voilà, des gens qui se sont dit, bon, cette fois-ci, je vais pas voter, se diront plus facilement la prochaine fois, oui, je resterai à la pêche ce coup-ci aussi.
C'est quelque chose qu'on a tendance à constater. Auparavant, on va dire il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, on parlait d'un vote intermittent. Il y avait des électeurs qui choisissaient de s'investir, et on le voit bien. Il y avait déjà des différences très importantes entre une élection européenne qui était moins participante, ou même des élections départementales qui étaient moins participantes, qu'une élection municipale, que l'élection présidentielle, qui restaient les moments extrêmement forts. Mais c'est vrai qu'il y a un peu un phénomène d'entraînement, un phénomène où, finalement, si les autres ne vont pas voter, vous savez, il y a la norme sociale aussi dans le vote. Si les autres ne vont pas voter, ouais. Finalement, ça n'est pas si grave. Et j'allais dire que d'une certaine manière, même si on insiste beaucoup depuis hier soir et ce matin sur le fait que c'est grave, que c'est important, que ça signifie quelque chose, on interprète, les politiques interprètent, chacun mène une stratégie et fabrique une stratégie sur la base de quelque chose qui a un peu moins de consistance. Ça n'est pas nul, mais ça a moins de consistance.
On va y revenir là-dessus parce qu'effectivement, quand on ramène les pourcentages en proportion des électeurs inscrits, les résultats sont tout autres. Restons encore un peu sur l'abstention. On arrive à faire le profil type de l'abstentionniste ?
Oui, le profil type de l'abstentionniste, alors on peut regarder sociologiquement. Et sociologiquement, c'est très très clair. Il y a eu un... L'ensemble des catégories, quand vous êtes à ce niveau-là, avec à peu près un tiers de participation seulement, l'ensemble des catégories reflue, notamment par rapport à une présidentielle qui vote à 75-80%. La structure d'âge est absolument terrifiante, j'allais dire d'une certaine manière, puisque vous avez environ 85% des moins de 35 ans. C'est pas seulement les plus jeunes, c'est pas seulement les primo-inscrits, c'est ceux, on en parlait tout à l'heure, ceux qui ont déjà voté, 85%. Et vous avez encore, j'allais dire encore, 40% des 70 ans et plus, qui se sont abstenus. C'est énorme par rapport à cette population qui est en général très mobilisée, qui est très fidèle au fait d'aller voter, qui a été sans doute formée par des années de vote. Voilà. Mais ça, c'est un premier élément. L'âge, moins de différence entre les catégories socio-professionnelles. On savait que les cadres votaient, les ouvriers votaient moins pour faire extrêmement rapide. Bien, cet écart se resserre.
Se resserre, d'accord.
Voilà. Et puis, politiquement, alors là, c'est absolument flagrant lorsque vous regardez le vote à l'élection présidentielle ou la proximité politique déclarée des personnes qui sont interrogées le jour du vote, c'est naturellement le Rassemblement national qui a été la grande victime de ce reflux démocratique. En tout cas, ils sont allés beaucoup moins voter que ce qu'ils faisaient d'habitude. Ils ne sont pas non plus à un étiage absolument énorme sur l'ensemble dans le rapport de force politique. Mais pour autant, on a là, avec cette idée qu'il y aurait pas loin de 70% des électeurs, on va dire traditionnels du Rassemblement National, ceux qui sont allés voter plusieurs fois, qui ne sont pas allés voter cette fois.
Et est-ce qu'on connaît la mécanique de la mobilisation de l'électeur du Rassemblement National? C'est-à-dire, on a entendu les appels très forts, presque les exhortations, presque des ordres de Marine Le Pen, allez voter dimanche, vous devez aller voter. C'était en majuscule sur son tweet. Est-ce qu'ils vont se remobiliser? Est-ce qu'on sait ce qui fait qu'un électeur du RN y va ou pas voter?
Il peut y aller quand il y a de l'enjeu, j'allais dire. Hein. Ouais. On voit en 2015, vous vous souvenez, entre une élection qui a déjà été peu participante, mais qui l'était quand même plus que cette fois-ci, il y avait eu 8 points de sursaut de participation entre les deux tours. 8 points. Cette fois-ci, même avec 8 points de plus, et s'il n'était que des électeurs du Rassemblement National, faire basculer les choses dans un schéma politique, en tout cas une configuration politique au niveau de chacune des régions, il y a moins d'enjeux. Ouais. C'est comme si, en gros, ce premier tour avait un peu assommé les électeurs. Il peut y avoir à certains endroits, et on va parler, vous en parlez tout à l'heure, de la région PACA, il peut y avoir un enjeu. C'est l'enjeu qui mobilise, c'est l'enjeu et le fait de pouvoir faire bouger les choses, d'affirmer quelque chose. Mais ça va être plus difficile.
Question sur les sondages, Édouard Le Serre. J'ai été très frappé, alors vous êtes BVA, j'ai été très frappé quand on a détaillé les intentions de vote Ipsos il y a quelques jours. J'ai regardé les fiches.
Oui.
Dans les intentions de vote, je ne sais pas si c'est pareil chez vous, il n'y avait pas le taux d'abstention attendu, entre guillemets. Est-ce que c'est parce que techniquement c'est compliqué à faire avant un vote? Expliquez-moi. Et est-ce que vous avez sous-estimé l'abstention? Ça va avec, hein.
Oui, alors ça, c'est les instituts, on procède de manière plus ou moins similaire, mais bon, le fait de présenter ou pas l'abstention, c'est vrai pour cette élection-là, et en général, on le fait présenter ces éléments-là. Mais pour autant, collectivement, il y a eu une sous-estimation de l'abstention cette fois-ci, et de quelques points, 5 à 10 points en fonction des régions, et c'est parfois susceptible de modifier complètement les choses. Or, il se trouve, on vient de le dire, que cette progression de l'abstention s'est faite essentiellement sur le vote Rassemblement National. Ouais. Souvenez-vous, au municipal, il nous est arrivé un petit peu la même chose de manière différente. On a sous-estimé la participation des jeunes urbains. Et ça a donné ce qu'on a appelé la surprise écologiste dans un certain nombre de villes plus importantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un peu plus de mal à avoir une forme de sincérité. On l'essaye, vous savez, on a plusieurs questions pour essayer de vraiment aller vers la conviction la plus intime des individus en leur demandant « est-ce que vous allez voter ?» On leur propose une échelle de 0 à 10. 0, vous n'allez pas voter. 10, vous êtes absolument certain. Et on ne garde que les 10 ou les 9 et 10. Donc vraiment, on les pousse. Mais ce qu'on disait tout à l'heure sur la sacralisation du vote, sur le fait d'en faire quelque chose de très important, s'engager aujourd'hui, le dire à travers un sondage, qui ne vaut que ce qu'est un sondage, eh bien c'est moins engageant. Et finalement, les gens le disaient peut-être avec une forme de sincérité, mais dimanche, au moment d'y aller, il faisait peut-être beau, la fête des pères, et puis une forme de lassitude, eh ben ils ont choisi autre chose. Donc c'est ça qu'on arrive un peu moins bien à mesurer.
Et donc mesurer l'abstention et la sous-estimation du RN, vous nous dites que les deux sont liés.
Oui,
parce
forcément, cette fois-ci, par exemple pour les municipales, ça n'était pas la même chose. Hein. C'est une des difficultés de notre métier, on travaille sur une matière extrêmement vivante, les individus, les électeurs, et ils changent de schéma. On n'arrête pas de dire que la politique change les systèmes de représentation. Si on avait réussi une fois, et ça nous arrive quand même relativement souvent, à parfaitement cadrer les choses, et qu'on se disait, c'est bien, le système fonctionne, on le réapplique. Sauf que les électeurs, eh ben, ils s'amusent, ils sont un peu différents, et ils changent en général de façon de penser, de façon de se positionner. Ça rend le système un peu plus compliqué à mesurer.
Alors, Véronique, via l'appli France Inter, nous dit, je pense que dans ces conditions, les élus n'ont aucune légitimité. Je ne sais pas si vous iriez jusque là, mais c'est frappant. J'ai pris l'exemple dans le journal de Laurent Wauquiez. Au-delà des 40%, une avance vraiment très nette sur ses adversaires. Quand on ramène par rapport aux inscrits, il est à 14%. Ça relativise tous les commentaires qu'on peut avoir.
Oui, mais c'est en général et de plus en plus souvent, on le fait. On l'a même fait pour l'élection présidentielle, la dernière élection présidentielle, compte tenu du nombre de personnes qui avaient réellement voté, qui n'avaient pas voté blanc et nul, etc. C'est une question, mais c'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux? C'est-à-dire que les personnes qui, en général, pas du tout votre auditrice, hein, je ne l'incrimine pas, mais qui disent il n'y a pas de représentation correcte, on n'y arrive pas. Je pense que le meilleur moyen de le faire, c'est d'aller voter pour dire, ben voilà, tel candidat. Et il y a des candidats qui parlent de ça. Il y a des candidats qui mettent en avant le fait que la représentation n'est pas bonne, qu'il faut changer le mode de scrutin, qu'il faut... Aujourd'hui, on ne peut pas parler, on peut parler psychologiquement, effectivement, d'une faiblesse. C'est évident. Ensuite, démocratiquement, les institutions, la constitution, on est encore dans les règles de cette constitution. Et vous le voyez, par exemple, pour les départementales. Si on n'atteint pas un certain quorum, un nombre d'électeurs sur les électeurs inscrits, si vous n'êtes pas 25%, vous n'êtes pas élu immédiatement, même si vous avez la majorité absolue de ceux qui sont exprimer. C'est un peu compliqué, mais il y a des garde-fous, mais pour autant, c'est vrai que ça pose une vraie question.
Est-ce que ça veut dire que sur-représentation, par exemple, de l'électorat un peu plus âgé, l'électorat de droite traditionnel, qu'on a une photo imparfaite, voire trompeuse de la France politique en commentant ces régionales ce matin?
Absolument. Elle est totalement trompeuse. Elle est absolument trompeuse. Alors, on peut l'analyser, on peut dire elle est trompeuse, mais attention.
Elle existe.
C'est ce qu'on fait. On fait en ce moment, on explique que c'est trompeur. Vous parliez tout à l'heure, au début du journal, du score de Laurent Wauquiez et du nombre de personnes. Regardez, on entend parler, et c'est normal, de la victoire de la droite, en tout cas de la reconduction d'un certain nombre d'édiles potentiellement. Et quand vous regardez les résultats obtenus, par exemple, par les candidats de droite, Laurent Wauquiez, vous le disiez, 50 000 voix de moins qu'en 2015. Xavier Bertrand, c'est à peu près pareil. Il a perdu 8 000 voix, mais on le voit qu'il y a une forme de reproduction, certes, mais ces pourcentages, il faut toujours aller chercher le chiffre réel, le nombre d'électeurs. C'est un élément qui sera extrêmement important pour la prochaine élection présidentielle, parce que vous savez, on parle de plafond de verre. Le plafond de verre, c'est pas un pourcentage, c'est un nombre d'électeurs. Donc, regardons le nombre d'électeurs, et puis ça nous permet d'avoir une analyse un peu plus en profondeur.
Est-ce qu'on a une France un peu plus à droite, malgré tout, au fil des semaines, au fil des mois, et après ces élections régionales et départementales, puisqu'il s'avère que c'est 60% des départements qui sont à droite, et que ça devrait à peu près rester pareil?
La France qui est à droite, il y a plusieurs critères pour l'analyser. Il y a un premier critère qui est, d'un point de vue des valeurs, de la sociologie, de ce à quoi croient les gens, ce qu'ils ont envie de voir bouger. Et c'est vrai que la plupart des enquêtes nous montrent qu'effectivement, le balancier, en tout cas, il y a un certain nombre de convictions que l'on estime être de droite, sur lesquelles il y a une masse plus importante, des majorités plus importantes de Français qui adhèrent. Donc ça, on peut dire que oui. Et à l'inverse, vous avez un autre système d'analyse qui est le rapport de force politique. Et là, vous dites la gauche, elle en est où? Et vous avez du mal à trouver des scores qui soient extrêmement performants, même si on va en avoir, là, on va dire en pourcentage en tout cas. Et donc, forcément, il n'y a aucun indicateur qui dise, en dehors de certains éléments sur la façon dont on voit la société, la façon dont on voit les autres, il y a quand même des choses dont on se dit, c'était ce qu'on appelait autrefois des valeurs de gauche, qui sont quand même, encore une fois, porteuses, portée et qui avance. Donc il y a un équilibre. On ne peut pas dire d'un seul coup tout est à droite, tout est à gauche. C'est un peu plus compliqué.
Merci Édouard Le Serre d'être venu dans les studios de France Inter. 13h44.
France Inter. le 13-14.
À suivre dans ce 13-14, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
En ce jour de fête de la musique, Jack Lang est dans le vif.
Ouais, je vais faire sonner les grandes orgues en l'honneur d'un homme resté à gauche.
À tout à l'heure, rendez-vous dans 10 minutes. Avant cela, une semaine dans la vie des assistantes sociales de Trappes dans les Yvelines. C'est notre feuilleton jusqu'à vendredi. Un chiffre pour dire leur rôle majeur. Trappes, c'est un peu plus de 30 000 habitants. 5 000 personnes ont été suivies par les assistantes sociales depuis la crise sanitaire. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
À votre micro en ce 21 juin, jour de la fête de la musique, le chanteur et rappeur Black M qui vient de sortir Alpha, quatrième album studio.
Alpha qui se trouve être également le prénom de Black M et c'est un album composé de trois parties. D'abord 14 titres écoutables sur les plateformes de streaming depuis un mois, puis d'autres chansons paraîtront sur un CD. Enfin, troisième partie au début de l'année prochaine, une proposition musicale et commerciale très réfléchie.
Comme j'ai enregistré beaucoup de sons, depuis la pandémie, depuis le premier confinement. Du coup, je me suis dit, je vais faire cet album par différentes étapes. La partie 1, elle va être très rap. Et en réalité, c'est destiné au public du streaming. Et ensuite, la partie 2, je vais faire du physique. Et la partie 3 sera une réédition.
On est tous fatigués, on veut juste kiffer. Si l'addition est salée, c'est pas grave, on se laisse aller. Cette fois-ci, c'est la bonne, on va tout péter cette année. Ego, j'ai trop de problèmes et je vais pas les étaler.
Et voilà l'idée du disque. Et en même temps, faire trois parties, c'est prendre la parole trois fois dans l'année, même en débordant sur celle d'après. Et aujourd'hui, la musique se consomme tellement vite qu'arriver qu'avec un seul album et prendre la parole une seule fois, j'ai l'impression que ça suffit pas.
Et est-ce que vous avez l'impression que pour certains, vous êtes surtout, voire exclusivement, le chanteur d'un tube ?
Oui, et j'ai envie de dire tant mieux, Dieu merci, parce que sans Sur ma route, il n'y a pas de Black M du grand public. Il y a un Black M de Section d'Assaut, il y a un Black M d'une petite niche de rap très fermée, mais il n'y a pas le Black M grand public qui me permet de venir faire une interview à France Inter aujourd'hui, par exemple.
Que tous ceux qui sont dans la vibe,
lève-toi.
Que toutes celles qui sont dans la vibe,
lève-toi.
Que ceux qui sont assis se lèvent,
suive pas.
Allez, maintenant on y va. Cette soirée-là, avant même qu'elle s'est commencée, on est déjà dans l'ambiance. À peine entré sur la piste, on lâche nos derniers pas. Avec bien plus de cibles que Travolta. Pas le temps de souffler, dans la foule on part en reconnaissance. C'est la seule chose à laquelle on pense. Chacun fout son numéro pour en avoir un. Vu qu'entrer sans rien, pas moyen.
Cette soirée-là, on brasse, on branche. Toi-même, tu sais.
Jusqu'à l'eau, bébé.
Et c'est donc un titre d'il y a déjà 21 ans, oula, que Black M a choisi de nous faire écouter. Ces soirées-là de Yannick.
Yannick, à la fois chanteur et rappeur, lui aussi, ce titre, une adaptation de la chanson Cette année-là de Claude François, chanson elle-même adaptée d'un tube américain. Ce titre est resté 9 mois dans le top 50 en France avec plus d'un million et demi d'exemplaires vendus. C'est l'un des plus grands succès de l'année 2000. Et Black M, ça lui rappelle l'année de ses 15 ans.
C'est les premières sorties pour moi, c'est les premières boom, c'est les premiers amours, c'est les premiers tout quoi, les premiers slow, on faisait des slow à l'époque je me rappelle. Et ces soirées-là, dans le clip il y avait une chorégraphie et du coup nous on reproduisait la choré dans les soirées. En haut, à gauche, à droite, et on y va, allez hop. C'était génial. J'ai fait beaucoup de choses sur cette chanson-là.
Donc c'est des souvenirs d'ado.
C'est des souvenirs d'ado, des gros souvenirs d'adolescence.
Ça vous a manqué de pas faire la fête ?
Bah aujourd'hui, des années plus tard, moi je suis devenu quelqu'un de très casanier, famille, enfants et femmes. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand il y a un événement, un anniversaire d'un proche ou un jour de l'an, et bah on fait la fête.
Et on peut mettre cette chanson-là ?
Bien sûr, ouais, bien sûr. D'ailleurs, vu que c'est la fin du confinement, on peut clairement commencer à partir en vacances avec.
Elles sont toutes bonnes à croquer, mais c'est sur elles que j'ai craqué. Mon jean allait craquer quand mes yeux sur elles se sont braqués. Bon là, elle est seule, je fais quoi, je vais lui parler. Non, vaut mieux que je me calme avant d'y aller.
Mais qu'est-ce qu'il attend pour venir me voir ?
Bon, j'y vais, sinon, je vais encore le regretter.
Ah, enfin, c'est décidé, peut-être que ce soir.
T'inquiète, la soirée ne fait que commencer.
Cette soirée-là.
Est-ce que vous, ça vous plaît de faire des musiques qui dansent aussi ?
Ouais, moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça parce que faire danser, c'est universel, c'est rassembler le monde. le monde a besoin d'être uni et les moments de danse, un moment où ça danse, et ben, c'est un moment magique où personne pense aux problèmes et c'est du divertissement, c'est s'amuser. Quoi.
Que tous ceux qui sont dans la vibe,
lève le doigt.
Que tous celles qui sont dans la vibe,
lève le doigt.
Que tout le monde main dans la main,
suive le pas.
Allez maintenant tous ensemble, en haut, en bas.
Ces soirées-là de Yannick, c'était donc le choix de Black M, Frédéric.
Black M qui vient, lui, de sortir la première partie de son nouvel album, qui a pour titre Alpha.
Bonne fête de la musique, Frédéric. Il a été très peu question des élections départementales depuis hier, et pourtant, les départements ont un rôle clé à jouer dans bien des domaines, à commencer par l'action sociale. Dans le feuilleton, jusqu'à vendredi, nous passons une semaine avec des assistantes sociales. Le métier se décline bien souvent au féminin. Elles travaillent notamment pour le département, métier tellement méconnu qu'il en est presque déconsidéré. Alors que les assistantes sociales, à leur manière, ont été elles aussi en première ligne depuis l'année dernière. L'une d'entre elles a été tuée le mois dernier dans l'Aube, dans le cadre de ses fonctions. Les assistantes sociales accompagnent ceux qui ont besoin d'aide dans leur démarche, ponctuellement ou au long cours. Le suivi des bénéficiaires du RSA, la recherche de logement, les allocations familiales, l'urgence alimentaire. C'est dans les Yvelines, à Trappes, que Mathilde Dehimi a enregistré ce feuilleton. Les travailleurs sociaux n'ont jamais cessé de bosser pendant les périodes de confinement. Et les mois passés ont aggravé la crise. Tout commence par l'accueil.
Bonjour, j'ai rendez-vous avec Madame Guillet.
À 14h30, d'accord, tu me l'as
fait. Ah, c'est 14h30.
C'est 14h30.
Oh, j'avais le temps.
Allô, Madame Guillet ? Oui, bonjour, c'est Guillaume de l'accueil du SAS de Trappes. C'est pour vous prévenir que votre rendez-vous est déjà arrivé en avance. Mais d'accord, très bien.
Bah, je vais dehors avec les petits, merci beaucoup. Je peux aller dehors ?
Je suis Sonia Bartégi, chef de service sur le secteur d'action sociale de Trappes en Yvelines.
Vous aidez combien de familles sur Trappes ?
Alors, on a reçu jusqu'à 5000 personnes sur ces 18 derniers mois pour une ville de 32-33 000 habitants. Donc, ça représente un bon pourcentage.
Systématiquement, vous avez deux personnes de garde, c'est ça ?
Oui, alors tous les jours, il y a deux travailleurs sociaux qui sont présents. Et c'est là où les professionnels sont à même à évaluer, de savoir si l'urgence alimentaire, l'urgence d'hébergement, l'urgence de la difficulté intrafamiliale vaut une intervention immédiate, donc dans la journée, ou vaut après ça un accompagnement sur du plus long terme, etc.
C'est pas chose facile que de venir ici, de pousser la porte et de déposer ses émotions, déposer ses difficultés. Après, nous, on a notre boîte à outils, on va pouvoir peut-être répondre ou pas dans l'immédiat. On peut aussi dire que je ne sais pas et puis on va aller chercher l'information.
On sent, Florence, que vous aimez ça.
Oui, oui. Mais le travail social, c'est une passion. Enfin, c'est comme la cuisine, on le fait avec passion.
Et c'est quoi vos recettes, alors, si on continue la métaphore culinaire ? Comment vous accueillez les gens ? Qu'est-ce que vous regardez, même si en ce moment, avec le masque, c'est plus compliqué ?
Qu'est-ce qu'on regarde ? Les yeux, déjà. Je pense que les yeux. Et puis, la façon de se tenir de la personne. Après, il m'arrive, vous n'avez rien entendu, chef, quand c'est un premier entretien, de, comme on a le plexiglas, de me reculer, de retirer mon masque pour que la personne voit mon visage. La personne peut aussi le faire comme ça, on se voit. Et je trouve que déjà là, on peut démarrer l'entretien. J'enlève, vous me voyez et je le remets.
La rencontre de ce binôme entre la personne qui est accompagnée et l'accompagnant,
c'est la chimie qui va se passer,
elle se ressent dès le premier rendez-vous.
Ça fait combien de temps que vous travaillez ici ?
29 ans.
Ça veut dire que vous connaissez les familles vous connaissent.
Oui. Les parents, les enfants, les petits-enfants, oui, on en est là, troisième génération. D'où quelquefois l'interrogation du travail qu'on a mené quand il y a une reproduction. Mais c'est aussi une réalité. C'est la qualité du travail qu'on a pu mener, puisque on peut voir la deuxième ou troisième génération venir aussi au service social.
Vous êtes un peu l'endroit où de référence ici. Hein.
Ouais. C'est-à-dire qu'on est ouvert, on est reconnu, on est en plein milieu de la cité. Et puis implanté depuis très longtemps. Donc le repère de la population, il est acquis. Après, effectivement, les gens vont venir facilement pour des questions qui ne nous concernent pas forcément.
On est un service public qui est ouvert et les personnes peuvent venir juste pour poser une question sans rendez-vous. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des derniers lieux où c'est encore possible, outre les mairies.
Une semaine dans la vie des assistantes sociales de Trappes, feuilleton signé Mathilde Dehimi, l'épisode 2, demain.
France Inter, le 13-14.
Et dans le vif de l'histoire, en ce 21 juin, cette question, que reste-t-il du passage de Jack Lang au ministère de la Culture? À la veille de la fête de la musique, Jack Lang a fait annoncer le regroupement de tous ses documents personnels avec ses documents ministériels aux Archives nationales, Jean Lebrun.
Pendant que paraissaient deux livres, l'un hagiographique, collection bouquin, l'autre plus critique, documentation française, et que l'hebdomadaire Le 1 titrait « Faut-il canoniser Jack Lang ?» En tout cas, avant même que le postulateur ne plaide la cause en face de l'avocat du diable, avant même qu'il ne se produise un miracle, nous avons la date qui permet déjà de célébrer le ministre perpétuel de la Culture de François Mitterrand. C'est le solstice d'été. Tout de même, depuis 82, sauf évidemment dans cas exceptionnel comme cette année, c'est une réussite républicaine que celle de la fête de la musique. Le peuple amateur de toutes les musiques promu à la même dignité est l'acteur et le spectateur des concerts qui se donnent un peu partout. Et dès lors que vous en jouez avec sérieux, passion, attention aux autres, toutes les musiques peuvent accéder à la même hauteur. Maurice Fleuret, le directeur de la musique que Jack Lang s'était choisi dans son administration de Missi Dominici, imaginait un avenir où démocratisation et création se conjoindraient. L'individu illuminé par la musique deviendrait conscience de la société.
Alors ça, c'est, disons, le côté noble de l'action de Jack Lang. Savoir-faire, certes, mais il y a le faire savoir aussi, la communication, les coups de fil aux journalistes à tout propos de la visite d'un marché quelconque à une inauguration sans grand intérêt.
Ici, Jack Lang, vous ne viendriez pas m'accompagner pour manger une soupe aux écrevisses sur le marché de X? Alors oui, ça vous agace, ça, Bruno, mais ma génération, des journalistes culturels d'autrefois, eh ben, elle a été heureuse d'être sollicitée. À l'époque, j'étais chef du service culturel d'un quotidien austère qui n'accordait pas une importance particulière à mon secteur. Eh ben, c'est bien simple. En 2 ans, j'ai doublé mes pages. À Jack Lang, les professionnels de la profession reconnaissants, sans parler de ma médaille des arts et lettres. Il m'a fait découvrir beaucoup de la France. Moi, je n'avais jamais mangé d'huître à 9h du matin sur un port avant lui. Je me souviens en revanche d'un départ, Gare de l'Est, au petit matin. Son frère avait alors des ennuis avec la justice, dont lui, Jacques, n'était en rien responsable, et la presse adverse faisait ses titres là-dessus. Et je ne me sentais pas fier d'être journaliste. L'homme que nous avions en face de nous, qui travaillait à bride abattue, ne méritait pas ce déshonneur.
Bon, il a doublé vos pages, d'accord, mais il y a eu aussi le ministre en veston rose, le ministre en col Mao, parce qu'il était venu une fois à l'Assemblée dans une veste dessinée par Mugler.
Oui, et puis le ministre qui aurait dit « Nous faisons passer la France de l'ombre à la lumière », ça c'était pendant un débat budgétaire en novembre 81. J'y étais, il n'a pas prononcé la phrase qui était inscrite dans son texte. Parfois, Jack Lang avait le sens du ridicule. Et en fait, avec le temps, l'architecture qu'il proposait a fini par provoquer un consensus. Les départements et les régions ont accepté de participer au maillage d'équipements culturels qui avait commencé avant lui, mais qu'il avait resserré. En 86, défaite de la gauche, une équipe de droite arrive au ministère. Le titulaire François Léotard va au total avaliser l'essentiel de la politique de Lang. Son secrétaire d'État, Philippe de Villiers, en revanche, non. Le créateur du Puy du Fou n'a cessé depuis de vouloir remplacer par un autre modèle nationaliste ce qu'il considère comme l'hégémonie culturelle de la gauche. Depuis, les crédits du ministère n'ont pas vraiment baissé, mais le crédit de ses successeurs, oui. Et l'intensité de l'action de son ministère, victime d'une routinisation que les incessantes réformes de cette administration voudraient corriger alors qu'elle l'aggrave. Elle en est souvent réduite, dans les dossiers qu'elle traite, cette administration, à ne faire qu'enregistrer les avis des uns et des autres. Ça s'appelle en novlangue l'activation. Je vous donne un exemple parmi d'autres. Oui, dans le 14e, la ville de Paris veut faire de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, dans cet arrondissement, un quartier nouveau. Très bien. Et l'idée est venue d'y ouvrir un musée Giacometti. L'activation consiste à demander l'avis du public. Alors, le public, il préfère un restaurant solidaire ou une station de regonflage de vélo. Sous Lang, on aurait dit, je sais pas moi, que Giacometti, c'était un génie, que de son atelier conservé non loin, il passait par là à pied chaque soir, rejoindre ses amis et des filles à Montparnasse. on n'aurait sans doute pas eu de station de regonflage de vélos, mais on aurait eu une exposition permanente de Giacometti. Une conviction aurait prévalu, ça s'appelait une politique culturelle, qui animait une volonté, je voudrais même dire un volontarisme, que Jacques Lang réussissait à faire partager.
Et vous recommandez donc Les années Lang, un dictionnaire critique des politiques culturelles 81-93 à la documentation française.